L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Gaëtan Rohr, Philippe Subercase.
Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, ce n'est pas Gaëtan Rohr qui est à ma compagnie, mais Delphine Pereira. Bonjour Delphine.
Bonjour Philippe.
C'est un homme libre que nous allons aujourd'hui accueillir. C'est comme ça qu'il se définit. C'est pour moi un grand plaisir d'accueillir le maire de Lalmezan, M. Plano. Bonjour.
Maître, bonjour. Je rajouterai aussi président de la communauté de communes du plateau de Lalmezan.
Exactement, la CCPL, nous on connaissait ici voilà, du côté de Lourdes, la CCPL, mais vous aujourd'hui c'est la communauté de communes, donc effectivement du plateau de Lalmezan, hein, c'est ça. Hein.
C'est ça.
Voilà, vous êtes donc à la fois le maire et le président de la Comcom. Vous avez eu différentes casquettes, hein. Vous avez eu beaucoup de titres, de PDG d'ailleurs. Vous avez été PDG de Matra Système Information. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous résumer comment vous êtes arrivé de toutes les casquettes? Alors en deux mots, d'avoir toutes ces responsabilités d'être dans une multinationale, vous étiez un peu quelqu'un qui était important pour vous et qui vous aimait bien, c'est M. Lagardère.
Tout à fait. Je pense que je l'aimais bien d'abord et puis il m'aimait bien. Il m'avait embauché en 70, et à l'époque, Matra faisait 300 personnes. Voilà. Donc, voilà. Une embauche particulière autour de son comité directeur. Donc, et pendant plus de 35 ans, mais voilà, j'ai suivi cet homme. Voilà.
Et vous avez suivi cet homme et vous avez fait une rencontre de l'ancienne sénatrice, hein, Madame Durieux, qui vous a rencontré pour savoir ce que c'était un satellite au début et qui vous a amené jusqu'à devenir le maire de Lalmezan.
Tout à fait exact, oui.
D'un satellite, vous devenez le maire de
satellite, depuis, je me suis retrouvé maire de Lalmezan, complètement, je ne vais pas dire à mon insu, mais quelque part, ce n'était pas une projection que j'avais envisagée. Mmh. Voilà.
D'autant que vous êtes bordelais, à l'origine.
Oui, d'accord, je suis bordelais, mais effectivement, après, la vie m'a amené plutôt vers Paris pour les études, travailler à Paris, après implantation à Toulouse. Donc, Bordeaux est resté toujours effectivement quelque chose de très important sur le berceau familial et puis mon origine. Et puis voilà, donc, mais malheureusement, j'ai jamais pu m'installer à Bordeaux.
Oui, mais justement, Lalmezan, ça compte beaucoup pour vous. Vous êtes plus que le maire de Lalmezan.
Ah, maintenant, oui, je suis plus que le maire de Lalmezan. Moi, Lalmezan, je me suis pris de passion pour le développement d'abord de Lalmezan et maintenant du territoire global autour de Lalmezan. Et pourquoi pas, plus largement, même départemental. Quand j'étais président de Pyrénia, je pensais département.
Ouais. Vous êtes tombé amoureux de ce territoire et de ce plateau.
Absolument, absolument, parce que stratégiquement, il a des atouts. Hein. Mais avant tout, c'est l'esprit d'entrepreneur. Que m'a d'ailleurs, je vais dire que j'ai épousé, disons, les options de Jean-Luc Lagardère, qui est un entrepreneur reconnu, ainsi de suite, où on avait peur de rien, quoi. Hein. On avait peur de rien. Bon, j'ai souvent pas peur de grand-chose, effectivement, pour entreprendre.
Quand on vous propose de vous présenter aux élections municipales en 2001 sur le plateau de Lalmezan, et dans la commune de Lalmezan, oui, elle se porte pas bien, la commune. Péchine épars, du chômage, oui, de l'inquiétude. On sait très bien que dans une région, on pose les valises et que là où il y a du travail, là, vous arrivez au plus mal.
Mais c'est peut-être ça qui est effectivement, c'est peut-être l'ambiguïté. Je vais toujours sur des challenges un peu difficiles. Voilà, donc remonter l'Everest la face nord de l'Everest en pantoufle, ça m'a toujours plu. Quoi.
C'est quelque chose qui vous a plu. Vous aviez promis en 2001, lorsque vous vous présentez au premier suffrage, vous dites que vous allez créer 800 emplois sur le plateau de Lalmezan. Ça a été peut-être votre fil rouge tout le long de vos mandats, puisqu'après vous avez été réélu 4 fois, puisque vous êtes au 4e mandat, la première fois au second tour et les autres au premier tour.
Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que c'était un pari fou, quoi. 800 emplois sur un mandat, il fallait être fou pour le dire. Je ne l'ai pas fait, d'ailleurs, parce que je l'ai fait sur 2 mandats. Mais en final, c'était la dynamique qui était annoncée, quoi. Bon, je suis assez content d'avoir réussi, même si sur 2 mandats, et de poursuivre, effectivement, ce développement économique. Ce qui devient plus difficile aujourd'hui de développer économiquement un territoire que ça l'était il y a 10 ans, quand même.
Qu'est-ce qui est plus dur aujourd'hui ?
D'abord est arrivé plein de contraintes diverses, réglementaires, des contraintes environnementales, le côté acceptation sociétale des implantations que vous réalisez sur un territoire. Donc tout c'est au moins ces trois gros paramètres deviennent plus durs. Et une implantation qui, par exemple, si on reprend Knopf, une implantation que j'ai réalisée en 4 ans, aujourd'hui c'est plus 4 ans qu'il vous faut, c'est 7-8 ans. Quoi. Ça devient plus dur. Pour ces paramètres-là.
C'est une lourdeur administrative qui est là ?
Pas qu'administrative. J'ai parlé aussi de l'acceptation sociétale de l'implantation industrielle aujourd'hui. Vous êtes obligé vraiment de tenir compte de l'acceptation sociétale pour qu'une entreprise puisse, si elle a une dimension écologique, si elle a une dimension industrielle forte, vous êtes obligé de tenir compte de cela, oui.
Depuis votre élection, le tissu industriel, il a fleuri. On ne peut pas dire le contraire. Il y a Prugent, il y a Knopf, Arkema, PSI, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont installées. Et justement, le terrain de Pechiney, qui était laissé à l'abandon un petit peu, je crois que vous en avez fait quelque chose de pas mal et que vous prévoyez...
Je vais en faire quelque chose.
Voilà.
J'espère. Oui, si vous voulez, au départ, le développement... aujourd'hui, on était avec deux entreprises en 2001, rappelons-nous, Arkema et puis Pechiney. Donc là, il y avait une fragilité stratégique. À partir du moment où les décisions ne sont pas prises sur le territoire, si vous voulez, vous pouvez avoir une décision stratégique comme on a eu sur Pechiney, c'est-à-dire un retrait de l'entreprise. Donc le guide du développement, pour moi, c'était avant tout de retrouver une résilience stratégique sur le territoire avec des décideurs au plus proche du territoire. Donc c'est effectivement l'implantation de Prugent par exemple ou de Mécamo ou de FTEC puisque maintenant on est assis sur une dizaine d'entreprises majeures qui sont entre 5 PSI aussi 50 employés jusqu'à 250 pour Knopf si vous voulez. Knopf, je ne vais pas dire qu'on a la primauté de la décision stratégique, parce qu'elle est en Allemagne quand même, mais on a effectivement tous les atouts pour pouvoir aussi faire valoir cette présence stratégique. Donc c'est arriver à retrouver d'abord une diversité d'activités, ce qui est très important, et viser sur... aujourd'hui, on a quand même une dizaine d'entreprises qui sont dans des secteurs divers, donc on est moins sensible aux variations économiques et stratégiques. Voilà, donc on est plus solide, le territoire est plus solide. Donc, et ce développement, il a été fait par implantation. C'est-à-dire que c'est des industriels qu'en final, vous amenez sur le territoire parce que vous avez des atouts sur le territoire. Ce sont des atouts divers, de l'énergie, des atouts de mobilité, de la proximité de l'autoroute, ainsi de suite. C'est ça que vous faites valoir à ce moment-là. Mais quelque part, vous êtes toujours dépendant d'une décision qui ne vous appartient pas. Hein. Donc, ces derniers temps, puisque vous parlez des terrains de Pechiney, dont j'ai fait l'acquisition, et quand j'ai... l'acquisition n'a pas été, innée pour Pechiney, puisque Pechiney, un jour, je reçois une lettre, alors que je visais ces terrains, me disant que je vais installer une cinquantaine d'hectares de photovoltaïque dessus. Donc, j'ai pris tout de suite mon téléphone au signataire de la lettre pour lui dire non, ça, j'en veux pas. Ça crée aucun emploi, ça va créer de l'énergie, certes, mais c'est pas ce que je cherche sur ce territoire. Et je lui dis, vous m'attendez, lundi matin, je serai dans votre bureau pour vous présenter, moi, ce que je désire faire de ces 50 hectares. Et donc, je suis arrivé avec un plan qui était un plan, une idée de développement basée sur les énergies renouvelables, mais pas que photovoltaïque. Il y en aura, mais pas que photovoltaïque. Et donc, j'ai gagné la partie. D'ailleurs, à la fin de la réunion, il me dit, moi j'ai 40 sites comme ça en Europe. Est-ce que vous ne pourriez pas être le chef de projet des 40 sites pour essayer de les animer de cette façon? Donc j'ai dit, ça me suffira avec le mien, c'est bon. Et là, l'idée, c'est d'installer des activités qui sont ancrées au territoire, qu'on ne va pas vous délocaliser. Hein, c'est-à-dire que partir des minerais du territoire. Alors qu'est-ce que c'est un minerai ? C'est un minerai agricole, c'est un minerai parce que vous avez du vent, parce que vous avez... Alors le vent, on va s'en éloigner. Du soleil, vous avez de l'eau, ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec les produits qui sont sur votre territoire ? et donc qui seront moins délocalisables. Hein. Donc c'est comme ça que je suis parti sur la cogénération bois en particulier, la filière bois, où là effectivement j'ai eu aussi des avatars quand même qui me sont arrivés sur la filière bois, qui sont injustifiés, mais je ne reviendrai pas dessus.
C'est quoi la filière bois?
La filière bois, c'était partir de notre massif hêtre, du bois hêtre, pour pouvoir constituer une activité de produits, disons, qui rentrerait dans la construction des bâtiments, ainsi de suite. Donc après, bon, après ce projet, c'était le projet Florian, donc ce projet Florian... Florian à un moment donné a jeté l'éponge parce qu'il y avait une contestation disons par une association qui s'appelle Touche pas à ma forêt, une contestation, et on cueille sur la quantité du bois à cueillir pour pouvoir faire vivre cette société. Bon, tout à fait injustifié, et ça c'est tombé. Mais j'ai pas de regret parce que les hectares qu'aurait pris cette scierie, j'en vais en avoir besoin, et j'en ai besoin pour faire de l'hydrogène. Donc pour revenir sur ça...
Ça c'est votre dernier bébé, ça.
Oui, c'est mon dernier bébé. Donc aujourd'hui, c'est partir, je prends l'hydrogène. Vous partez de quoi? De l'eau. On a de l'eau, bien sûr, sur notre territoire.
Mais il faut de l'électricité.
Il faut de l'électricité, voilà. Donc tout est lié. Hein. Et vous avez du carbone après. Si vous avez de l'hydrogène, quand vous faites de l'électrolyse, vous avez de l'oxygène. Donc l'oxygène est très précieux aussi dans le développement économique. Et l'hydrogène, si vous avez du carbone, vous faites ce qu'on appelle du SAF, c'est-à-dire du Sustainable Aviation Fuel, avec une combinaison carbone...
Là, c'est l'ingénieur qui parle.
Oui. Carbone-hydrogène, selon la formule Fischer-Tropsch, très connue, c'était des savants allemands qui sont à l'origine d'ailleurs de tout le carburant, à 70% du carburant allemand pendant la guerre, la dernière guerre, ils faisaient leur carburant de cette façon. Donc on ne réinvente pas...
Non.
On ne réinvente rien, on ne fait qu'appliquer cette formule dans cette nouvelle activité qui sera de faire du kérosène de synthèse qui rentre parfaitement dans la décarbonation du transport aérien. Ouais.
D'accord, parce que vous pensez que dans le futur, nos avions n'auront plus, le carburant fossile d'aujourd'hui, mais ils auront de l'hydrogène ?
Non, à mon avis, dans les avions, il y aura trois classes d'avions. Samedi soir, d'ailleurs, j'ai dîné avec quelqu'un.
Enfin,
chef d'entreprise qui est, par exemple, en train de développer des avions jusqu'à 19 places en électrique pur. Voilà.
100% électrique.
100% électrique. Mais il faut des batteries, il faut les charger quand même, oui, avant de partir, ainsi de suite. Et puis, après, vous aurez une gamme plutôt, peut-être à hydrogène, hein, une gamme. Mais quand vous serez sur un lourd porteur... on ne pourra pas faire de l'électrique et de l'hydrogène, hein. Donc il faudra arriver, et je pense que le SAF et ce kérosène de synthèse sera un substitut, et on ne change pas la motorisation des...
D'accord.
La motorisation des
avions.
On rajoute rien, c'est-à-dire que c'est les moteurs actuels, mais vous avez du kérosène plutôt que le tirer du fossile. Vous remettez du carbone en circulation. Là, vous faites un carbone de synthèse qui utilise le carbone qui est déjà dans votre atmosphère.
D'accord.
Et celui-là, contrairement à l'électrique ou l'hydrogène, peut être utilisé dans des avions qui ont beaucoup plus de passagers.
Ah mais oui, c'est pour ça. Ah oui. Il y aura trois gammes d'avions, l'électrique, l'hydrogène et le SAF. Oui, voilà. Donc, mon dernier bébé, c'est ça, faire de l'hydrogène pour la mobilité et pour faire ce kérosène de synthèse.
Alors, il y a le développement économique, oui, pour votre commune, oui, votre Comcom, mais il y a également la vie de tous les jours, de l'Almezan. Alors, vous avez aussi également des projets. On parle de la piscine, parle de...
Alors, oui, mais tout à fait. Si vous voulez... c'est un système. Une ville, c'est un système. Moi, j'ai toujours été un homme système qui lie les différentes composantes. Vous ne pouvez pas avoir un vecteur qui va trop profondément si vous ignorez les autres. Je prends un exemple. Si, par exemple, vous ameniez tant de personnes, 1000 personnes sur un territoire, vous n'avez pas de santé, ça ne va pas. Donc il faut que tous les vecteurs avancent, je ne vais pas dire au même rythme, mais soient complémentaires. Donc si vous faites que développement économique, ça ne va pas suffire, parce que vous n'allez pas forcément localiser, les gens ne vont pas habiter forcément chez vous si vous ne leur créez pas des structures culturelles, des structures sportives, des structures de santé. Donc vous êtes obligé de faire avancer de l'habitat aussi. Hein. Donc vous êtes obligé de faire avancer tous les secteurs, tous les vecteurs, peut-être pas à la même vitesse, mais qui soient complémentaires.
On voit que vous êtes vraiment attaché au développement économique, c'est votre fibre, ça a été toute votre carrière. Est-ce que c'est plus difficile pour vous de porter des projets plus terre à terre sur la réfection d'une piscine, la salle des fêtes, les halles, le cinéma?
Non, ce qui est difficile, c'est le financement, c'est pas la pensée.
La pensée, vous l'avez prise.
La pensée, il n'y a aucun succès, il n'y a aucun souci. C'est les financements. C'est les financements. Donc, j'arrive dans une période après un redressement systématique de nos finances, aussi bien en communauté de communes qui a toujours été bonne financièrement, mais de la vie de la maison, avoir la capacité d'investir. Donc c'est le bon moment aujourd'hui pour nous, et c'est pour ça que vous voyez effectivement émerger pas mal d'infrastructures sur l'Anne-Mezan, comme la médiathèque, on n'en parle pas, mais qui était au niveau culturel important, le cinéma aussi qui va compléter le panel culturel, le centre aquatique qui lui va apporter tout l'aspect ludique, loisir et sportif. Mais derrière, j'ai d'autres idées. C'est créer tout un centre de loisirs, d'activités plein air, ainsi de suite, où on trouvera pour faire l'exercice du vélo, l'exercice du jogging, l'exercice du tir à l'arc, ainsi de suite, de faire avoir un complexe en entrée de ville qui ne soit pas que le centre aquatique. Voilà. Donc, après, vous faites obligé de faire avancer l'habitat aussi. Si vous voulez que les gens que vous amenez en économie puissent habiter chez vous, sinon, c'est quand même dommage qu'ils aillent refaire 30 ou 40 km pour aller habiter plus loin. Donc ça, c'est un volet qui est, on a eu beaucoup de réalisations, et aujourd'hui c'est un peu un volet qui est un peu en panne, l'habitat aujourd'hui, je tiens à le dire, est un peu en panne par rapport à, bien sûr, au climat des prés, des emprunts, la hausse des matériaux, tout ça. Donc il y a quand même un aspect, un vent frileux qui est sur l'habitat. Aussi, vous devez avoir aussi des hôtels, par exemple. C'est aussi un volet qui est difficile, que j'ai des difficultés à remplir. Donc, tout n'est pas rose non plus. Il y a beaucoup de choses qui se font, si vous voulez. Et mon développement, c'est justement de faire marcher ces vecteurs de façon à une vitesse assez identique, quoi.
Et justement, il y a quelque chose de très important, justement, pour faire vivre cet écosystème, c'est la santé, c'est le volet santé.
Oui, je l'avais oublié.
Vous avez l'hôpital de l'Anne-Mezan, qui est très connu, mais vous avez aussi d'autres projets sur des maisons de santé et tout ce qui y est inhérent.
Alors, la santé, c'est quand même un volet très, très difficile, quand même, hein, parce que d'abord, il faut faire venir des médecins. Faire venir des médecins, ça fait partie de cette attractivité. Bien sûr, vous ne ferez pas venir de médecins si vous n'avez pas forcément une offre culturelle, ainsi de suite, une offre habitat, une offre de loisirs. Voilà, donc c'est pour ça que tout est important. Donc j'ai pris l'initiative, effectivement, de racheter le centre médical, de le relooker, pour qu'il soit agréable aux nouveaux médecins qui vont venir prendre la relève des existants, et aussi leur donner un outil qui soit raisonnable en termes de prix. Donc ça, c'est en cours, c'est un des projets que je pousse. Mais bon, aujourd'hui, ça va toucher sur 6 à 7 médecins maximum. Bon, c'est déjà, on en a 4 aujourd'hui, si on en ajoute 3, ça sera déjà pas mal en termes. On a une offre médicale là, qui est au niveau des dentistes, au niveau des kinés. Alors les kinés, il n'y a pas de souci, c'est vraiment le médecin généraliste qui est la perle difficile à garder et à attirer. Hein. Donc, tous nos efforts vont porter sur ça. Hein. Bien sûr, il faut qu'ils portent aussi sur l'hôpital, mais je n'en suis pas responsable de l'hôpital. Hein. Dans le passé, donc, on a fait venir un plateau chirurgical qui est de premier ordre, à mon avis, avec des médecins et des chirurgiens toulousains. Il faut absolument le conserver. Quoi. Au-delà, bien sûr, de la spécialité de l'hôpital de l'Anne-Mezan, qui est psychiatrique. Voilà, la santé, vous avez raison. Donc, il y a des initiatives privées, si vous voulez, aussi, qui sont en cours, autour du paramédical, kiné, ainsi de suite, qui sont en cours, que je supporte. Voilà, c'est tout cet ensemble-là qu'il faut regarder. Et aussi, ne pas oublier aussi, on parle souvent des jeunes, dans les locales jeunes et les centres de loisirs, mais il faut penser aussi à nos aînés, hein, donc par des résidences inclusives. Hein, et donc là aussi, nous avons... c'est des réalisations que je soutiens, mais qui sont souvent des réalisations privées, pas forcément... institutionnel, hein, voilà. Donc,
mais vous êtes force de proposition, vous aidez, vous accompagnez, c'est
absolument,
ça.
Absolument.
Même si c'est du privé qui s'installe.
Ah oui, je vais le chercher.
Oui.
Je vais le chercher. chercher et s'il vient, je l'accompagne.
Oui.
Ouais, voilà.
Et comme tous les autres maires de oui. villes moyennes, vous êtes oui. confronté aussi à la vacance du commerce de centre-ville.
Ah, oui. Oui, d'accord.
Et je oui. crois que vous avez mis en place un dispositif justement pour attirer oui. les porteurs de projets.
Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Ouais, j'en suis fier d'ailleurs.
Ça consiste en quoi ?
Ça consiste en quoi ? C'est d'abord le commerce, souvent on oppose la périphérie au centre-ville.
Oui. Hein,
bon, déjà. Et donc souvent il y a une tendance, c'est d'aller dans les centres commerciaux, de développer des offres qui pourraient être en centre-ville. Donc j'ai une vigilance sur le sujet, hein, de ce côté-là, de pas trop encourager que des commerces qui devraient rester en centre-ville aillent sur la périphérie. Voilà. Ça ne veut pas dire que la périphérie est négligée. On a un centre commercial. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas du tout de zone commerciale. Donc c'est moi qui l'ai constitué et qui a pris racine à partir de 2007 avec le transfert de l'époque d'un champion qui est devenu maintenant un Carrefour Market. Et autour, c'est greffé une vingtaine d'enseignes qui portent pas préjudice au centre-ville. Ouais. Et cela dit, le centre-ville, il est fait souvent d'indépendants, pas de grandes marques. Donc il faut les encourager, ces indépendants, à s'implanter. Et comment les implanter ? Donc, bien sûr, c'est pas agréable pour un maire de passer dans sa rue puis de voir que les boutiques sont pas utilisées, ainsi de suite. Hein. Donc, à un moment donné, vous faites un certain effort. Vous allez mettre l'office de tourisme, vous allez mettre ça, mais quand même, il reste toujours des boutiques un peu vides. Donc j'ai pris une initiative qui s'appelle ici « Mon commerce sur un plateau ». Ça consiste à quoi ? Donc j'ai mis un manager de centre-ville qui fait le tour, qui analyse les initiatives, qui va chercher aussi ce qu'on peut implanter. Et nous, on paye, on accompagne toutes les formalités et pendant 3 mois, on paye le loyer. Donc on fait une aide au loyer.
D'accord.
Aide au loyer. Et aujourd'hui, on a une réussite sur 10 commerces, voilà. Qui se sont implantés, et il y en a le 10e va s'implanter au mois de septembre. C'est une poissonnerie. Ramener une poissonnerie en centre-ville, vous voyez, c'est quand même. Il faut dire que la personne qui va tenir, je pense, c'est une personne d'excellence, qui va tenir cette poissonnerie, hein, et bar à huîtres. Et qu'est-ce qu'on a pu implanter ? Une chocolaterie, on a implanté une activité pour les mamans, pour la maternité, du service, du chocolat, bientôt un restaurant, un sushi, et ainsi de suite. Vous voyez, donc 10 commerces en centre-ville, ça vous change la vie déjà. Voilà.
Oui.
Donc je voudrais continuer. Donc ça s'appelle effectivement « Ici, mon commerce sur un plateau », cette action. Ouais.
Quel est votre projet phare aujourd'hui, quelque part, sur le plateau, que vous voudriez voir, peut-être avant de terminer
Moi
votre... Oui.
Ah. Il faut que je me représente pour ça.
Il faut que j'ai... Alors, on vous posera la question, parce que petit à petit, on est à deux oui. ans, oui. un peu moins de 2 ans des élections municipales.
Mais tous, mais je pense que celui de l'hydrogène et du SAF que je vous ai parlé,
oui.
ça sera le vaisseau amiral. Mm-hmm. Oui, ça sera le vaisseau amiral.
Bernard Planeau, d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. On parle un peu de vos projets, on parle de la commune, de l'Almezan. Vous dites que c'est un atout et pourtant, c'est à la fois éloigné de la préfecture, de Tarbes, de Toulouse. Qu'est-ce qui est un avantage, vous dites, sur le plateau ? Qu'est-ce qui est un avantage ?
Je crois qu'il y a une identité un peu spécifique sur le plateau, déjà. Puis c'est un plateau, hein. C'est-à-dire qu'on voit un peu les choses de haut, 650 mètres, donc déjà ça. L'avantage, c'est qu'on a une croisée de nord-sud, est-ouest, au niveau de la mobilité, qui est importante, je crois. On a des possibilités de développement industriel et économique en sortie d'autoroute. Je pense que ça, c'est remarquable, parce que vous regardez le long de l'autoroute Toulouse-Bayonne, vous avez... pas forcément cette capacité.
Vous avez presque 2 sorties, quelque part, 4 vers.
Oui, c'est ça. Ouais. Vous n'avez pas cette même lac pour faire 15 km quand vous sortez pour aller sur les usines de lac. Nous, vous faites 300 mètres. On a un plateau remarquable pour les implantations industrielles. Je veux dire. Voilà, je pense que vous me posez la question, quels étaient nos atouts stratégiques?
Oui, vous parlez de cet axe Pau-Lac-Pau-Toulouse. Oui.
Alors, vous avez le regard, effectivement, vers la préfecture de Tarbes. Moi, je néglige pas la préfecture de Tarbes, je néglige pas Tarbes, clairement. Mais peut-être que notre atout, c'est d'être plus près de Toulouse à 120 km, si vous voulez. Et il y a quand même un regard toujours porté.
120 km est plus porteur que 30 km vers Tarbes.
Je pense, oui, oui, je pense. Et puis Saint-Gaudens, ce qui n'est pas loin. D'ailleurs, ce qu'on appelle le territoire d'industrie, vous savez, territoire d'industrie, c'est un territoire d'industrie, Lannemezan, Saint-Gaudens. Voilà. Donc, je veux pas, quand je dis ça, je ne veux pas me fâcher avec Tarbes, hein, pas du tout, hein, ce n'est pas ça. Mais on a plus un regard, je pense, pour le développement vers Toulouse. On vient plus facilement de Toulouse vers Lannemezan pour s'implanter. Voilà. Je pense qu'on a une proximité vers la Haute-Garonne qui est importante. Quoi.
Mm-hmm. Avec l'aérospatial,
oui,
beaucoup.
Oui, l'aérospatial et même les promoteurs, ainsi de suite. Oui. Je pense. Mm-hmm.
L'aérospatial et Internet, parce que pour la petite anecdote, il me semble avoir entendu quelque part, lors d'une conférence de presse, que vous êtes l'un des premiers à avoir une adresse Google. Une adresse mail.
À la mienne ?
Oui.
Oh, mais ça fait... C'est plus le début, ça. C'est toujours... j'ai toujours été gmail.com. Oui, 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 oui. Non, c'est vrai que j'ai une adoration un peu sur les initiatives. J'espère qu'il faudrait qu'il y en ait en France un peu plus sur la vitalité américaine sur le traitement de l'information. Oui.
Et pourquoi pas lui trouver une place sur le plateau de Lannemezan à ce moment-là ?
Ah, pas facile, ça. Parce que ça veut dire que vous amenez des spécialistes du développement industriel, du développement informatique. Hein. Et ça veut dire que c'est un monde spécial que je connais bien. Franchement, je le connais bien. Mmh. Et donc, il faut leur offrir des atouts d'attractivité qu'on n'a peut-être pas forcément. Hein. Donc, c'est pas facile, honnêtement. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'espère pouvoir avoir un gros data center, d'ailleurs, parce qu'il y a ce projet, on parlait de l'industrie, certes, mais aussi le CM10. Vous savez que je recherche au niveau du plateau de Lannemezan. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur les 18 hectares du CM10, hein, qui est une friche industrielle, non, militaire que j'avais achetée en 2007.
Et le CM10, pour les gens qui...
C'est centre mobilisateur numéro 10 à l'époque. Quand vous arriviez en civil, vous ressortiez en militaire avec un char.
D'accord.
C'était un centre mobilisateur, un centre d'équipement de l'armée qui a fermé ses portes. Moi, je ne l'ai jamais vu ouvert. Hein. Il a dû fermer ses portes en 2000 à peu près, quelque chose comme ça. Mais il y avait 250 personnes qui travaillaient là, hein, quand même.
D'accord.
Ah oui, vous aviez les stocks de chars, d'armes, ainsi de suite, tout ça. Donc voilà, c'était mobilisateur, c'est-à-dire on mobilisait les armées.
Et donc quand vous êtes arrivé, c'était devenu une friche.
Elle était déjà une friche, oui. C'était déjà
une friche.
Donc c'est pas facile, hein, pour même une friche comme ça. Vous en faites l'acquisition, comment vous la rénovez? Après, il y a des bâtiments, il y a 8 gros bâtiments qui sont dégradés en qualité, qui se sont dégradés avec le fil du temps, qui ont été occupés par des chauves-souris pour l'un ou deux. Donc quand vous avez déjà ça au niveau écologique, vous voyez tout de suite le tableau.
Hein, on n'y touche pas.
Oui, il faut trouver des parades, non pas facile. Donc je pense que sur ce projet, on va avoir émergé, puisque j'attends les réponses pour la fin du mois de juillet, certainement. Et là, on pourrait avoir des data centers, puisque le data center nécessite d'abord de la confidentialité un peu pour de sécurité. Il faut de l'énergie aussi. Et donc, on peut penser à votre idée, effectivement, de localiser des activités de traitement d'information.
C'est un projet qui
vous... Il ne dépend pas que de moi. Là.
Oui.
Non, là,
il faut les convaincre.
Oui, il faut convaincre.
Il faut les convaincre. Mmh. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, on en parlait là à l'instant, est-ce que vous trouvez que l'écologie est devenue un frein au développement économique? On dirait que lorsqu'on parle de développement économique, c'est un gros mot pour l'écologie.
Non, il faut qu'elle soit pas dogmatique.
Dans les deux sens.
Oui. Il ne faut pas qu'elle soit dogmatique. Je pense que il faut, c'est l'intérêt pour les civilisations, enfin les futures générations, il faut veiller. Moi, je suis fils de paysan, hein. Donc et de l'Entre-deux-Mer à Bordeaux, et je peux vous dire que j'étais désolé quand, par exemple, au Bec d'Ambès, je ne sais pas si vous connaissez le Bec d'Ambès, on faisait du béton à tout va, à la place des marais qu'il y avait, qui était une ressource importante pour la chasse, ainsi de suite. Donc moi, je suis très vigilant à ça. Par exemple, en photovoltaïque, vous ne me verrez pas jamais proposer un projet qui ira à l'encontre du développement, à l'encontre de la valeur nourricière d'une terre.
D'accord.
C'est-à-dire,
on ne peut pas sacrifier une terre pour faire du
photovoltaïque. Jamais, moi, mes propositions de photovoltaïque sont soit sur des terres que vous ne pouvez plus utiliser parce qu'elles ont été polluées, parce que vous avez cela, vous avez des lagunages à chaud, des choses comme ceci, et des grandes, sur des toitures importantes. Voilà, moi, je ne sacrifierai pas de terres agraires sur le sujet, sauf à trouver un compromis entre l'agriculture et l'énergie. Hein. Mais cela dit, voilà. Par exemple, j'ai un projet aussi de serre photovoltaïque, par exemple, où on va allier effectivement la production énergétique sur un terrain qui n'avait pas de très grosse qualité, et on va faire du maraîchage, du biomaraîchage dessous. Voilà. Donc moi, je suis pas... je pense qu'il faut trouver le bon compromis entre l'écologie et l'économique, hein, et l'industrie. Et c'est possible.
Il ne faut pas les opposer.
Mais il ne faut pas que l'un soit trop dogmatique par rapport à l'autre. Je crois qu'il faut combiner. On a besoin d'économie, hein, et on a besoin de conserver notre territoire, je ne vais pas dire vierge, mais respectueux de l'écologie. Mais voilà, c'est un problème. Et aujourd'hui, souvent, comme partout, aujourd'hui, on est trop dans les extrêmes. Voilà, on est trop dans les extrêmes, et il faut savoir combiner ce compromis.
Le temps passe vite, Monsieur Planot. Pyrénia, deux mots sur Pyrénia. Vous en avez eu la présidence pendant
six ans.
Quelques années. Oui. Qu'est-ce que ça représente comme projet pour vous? On a de plus en plus d'avions qui viennent se stationner là.
Oui, s'il reste que pour se stationner, c'est pas très bon. Hein. C'est pas forcément une dynamique, quoi. Moi, ce que je pense, c'est que j'ai toujours poussé Tarmac. Alors, je vais pas revenir sur le passé, mais quand j'étais chez ADS, je suis à l'origine de Tarmac en 2004. Oui, avec une rencontre avec un Noël Forgeard de l'époque. Voilà. Donc, mais j'étais pas en charge de Pyrénia à ce moment-là. Hein. Voilà. Donc, il faut absolument apporter de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, soit de la déconstruction, parce que c'est de la valeur ajoutée, par le fait que vous récupérez des pièces, ainsi de suite, et puis il y a de la main-d'œuvre qui agit, et puis vous récupérez de la matière. Soit vous faites de la maintenance, hein, donc je pense que c'est un créneau qu'a pris Tarmac, hein, en particulier. Voilà, la maintenance est importante. Le stockage pour le stockage, c'est bien parce que ça fait du chiffre d'affaires, si vous voulez.
Oui. Hein.
Mais ça fait pas forcément de la plus-value au niveau du personnel, au niveau de la main d'œuvre, ainsi de suite. Voilà. Moi, j'avais poussé un projet qui me tenait à cœur à cette époque-là, d'ailleurs, avec Lou Weller, qui était le directeur général de Tarmac. On y a beaucoup cru, avec aussi Airbus, qu'on est allé visiter plein de fois. Et bon. C'était, et je pense qu'on était dans le fil droit de ce qu'il faudrait faire. Sur l'A380 en particulier, les A380, bon, qui est un magnifique avion, hein, en particulier, actuellement, bien sûr, sa motorisation, elle n'est pas conforme, hein, il faudrait refaire sa motorisation. Bon, Airbus a préféré abandonner cette filière. Je ne sais pas si ce n'est pas une erreur, mais enfin, peu importe. C'est vrai que ce n'est pas moi qui fais la stratégie d'Airbus. Hein. Mais ces avions sont très usités, par exemple par les Émirats, où ils en ont quand même 160. Et ils se félicitent tous les jours d'avoir de l'Airbus. Et donc notre idée, c'était de refurbicher ces Airbus A380 sur la plateforme de Tarmac pour les remettre à un usage plus conforme peut-être à leur constitution. Mm-hmm. Donc dans le fret, ainsi de suite. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est le genre de projet que effectivement,
j'aimerais
bien aimé pousser. Ouais.
Il y en aura d'autres.
Pardon ?
Il y en aura d'autres.
Oui, mais ça ne sera pas moi. Parce que je ne suis pas sur cette plateforme.
Ah, mais chez vous, je disais chez vous.
Peut-être chez moi, oui.
On met tout au MC10, c'est ça ?
Ouais,
on met tout au
CF10.
C'est pas trop facile.
Revenons, vous avez la chance d'avoir un hôpital qui a une spécificité, l'hôpital psychiatrique.
Oui.
Quel regard vous portez, vous, aujourd'hui, sur cette volonté de voir un hôpital unique dans le département avec la fermeture des hôpitaux de proximité?
Si l'hôpital unique se renforce de spécialités, d'équipements et qu'il soit, cet équipement soit accessible à l'ensemble du département, oui, c'est pour renforcer effectivement l'activité, la médecine technologique, je vais dire, et on ne peut pas le faire partout. Hein, on ne peut pas le faire partout, ça c'est clair. Donc je crois que si elle est accessible, sur ce critère-là, je pense qu'il faut avoir une unité de premier ordre. Hein. Mais pas au détriment de la proximité. Il y a des proximités qu'il faut conserver. Hein. Proximité par le fait géographique. Hein. Donc la proximité, c'est quoi ? C'est déjà les urgences. Hein, qu'on ait des urgences de proximité. Que l'on ait des soins de proximité. Vous êtes à Saint-Lary, il vous arrive quelque chose, il vaut mieux peut-être commencer à se faire soigner à Lannemezan. Hein, voilà. Donc moi je suis... on ne parle pas de la psychiatrie, qui est un autre domaine. Donc moi je suis pour qu'on conserve... Bon, vous allez me dire, si pour Lannemezan, je suis pour que l'on conserve notre proximité de médecine générale et du plateau chirurgical qu'on a su monter.
Ouais. Vous avez su monter, oui. Donc un hôpital unique, moderne, avec des médecins, des chirurgiens compétents, mais en gardant au moins des services d'urgence. Avec... Donc ça veut dire l'imagerie, le labo qui vont avec pour que les médecins puissent travailler, l'IRM et tout ça. Et à côté de là où ils étaient peut-être.
Et puis des plateaux spécifiques comme nous avons de chirurgie. Voilà.
Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que des chirurgiens de Toulouse viennent opérer à Lannemezan.
Absolument, oui, ça a été une démarche qu'on a lancée en 2010 et pour rendre à Madame Durieux, un peu à moi aussi, mais à Madame Durieux... cette initiative.
Cette initiative. Comment se porte d'ailleurs la psychiatrie, la psychiatrie? On dit souvent que la psychiatrie est le parent pauvre de la santé. Comment ça se porte à l'hôpital?
Je suis un peu gêné pour vous répondre parce que je ne sais pas. Moi, je pense qu'on a une psychiatrie de qualité. Bien sûr, elle est souvent controversée. Mais c'est des théories différentes qui peuvent s'opposer au traitement de la psychiatrie. Je ne suis pas un grand spécialiste de ça. Bien que dans la vie de Lannemezan, nous en avons, disons, nous côtoyons tous les jours avec des malades soignés. Des malades soignés dans la ville, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, à cet effet, dans le cadre d'un comité de prévention de la délinquance, etc., je ne vais pas dire par le mot délinquance que la psychiatrie est délinquante, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais disons, il y a cette cohabitation entre les habitants de Lannemezan et la proximité dans la ville aussi de malades soignés. Hein, voilà.
Parce qu'ils ont des permissions de pouvoir quitter l'hôpital.
Non, c'est qu'ils habitent dans la ville. Il y a ils habitent dans la ville. Il y a des immeubles dédiés à la réinsertion, des malades par la vie sociale.
D'accord.
Hein. Donc il y a une cohabitation de fait. Hein. Donc, j'ai lancé l'idée dans ce comité de prévention, d'un comité local de santé mentale, hein, donc dans laquelle l'ARS est d'accord pour que l'on monte ce comité de santé, de local de santé, et aussi de santé locale. On va s'en occuper à partir du mois de septembre, parce que là, vous avez bien compris que les vacances arrivant, et puis tous les événements qui nous tombent un peu sur la tête, on n'aura pas trop le temps. Voilà. Donc Pernod, il y a ce projet de comité local de santé mentale.
D'accord. Vous avez créé une police municipale.
Elle existait, je l'ai renforcée.
Vous l'avez renforcée. Est-ce à dire que...
Mais j'ai renforcé avec
Lannemezan, qui est quand même... une commune assez rurale, il y en avait besoin, il y a une délinquance.
Ah, non, mais une police municipale, d'abord, il ne faut pas la voir que sous l'aspect délinquance. Il faut la voir aussi sur l'aspect du soutien qu'elle apporte à la population, et souvent la population vieillissante. Hein. Donc aller vers les personnes âgées pour voir s'ils vont bien, tout ça. Il y a une prévention hein, de fait. Donc ça, c'est important aussi. Hein. Il y a cette fonction. Après, bien sûr, vous savez, la délinquance automobile, ça existe. Hein. Je ne vous fais pas un dessin, c'est pas qu'à l'Anne-Mezan. Donc il faut bien la combattre. Hein. Que ça soit par le stationnement, la vitesse excessive, des abus de comportement. Donc on est bien obligé de réagir sur ça. Après, il y a la délinquance des biens sur les biens, hein, ou sur les personnes. Hein. Donc sur les biens, on a des faits de délinquance, certes, mais qui ne sont pas forcément d'origine lannemezanaise. Il y a beaucoup de l'importation.
Vous avez aussi une gendarmerie.
On a une gendarmerie avec qui il y a une coopération très importante. Donc on a une délinquance, oui, qui n'est pas supérieure au reste. On a des bons ratios dans la gendarmerie et la police municipale coopère. Donc on a beaucoup de délinquance. On a pas beaucoup, on a de la délinquance importée et surtout de la casse. Quoi.
Importée d'où?
Bah, dans l'environnement toulousain, voilà, on a cette, il y a des raids de temps en temps qui nous arrivent, hein, d'accord, bon, ça arrive pas trop souvent, mais ouais. Ça existe. Puis tout est varié. Qu'est-ce que c'est la délinquance? C'est les graffitis là au moment d'une manifestation pour la prison. C'est le collégien qui va vous casser quelque chose dans le gymnase. C'est divers tous les jours. J'ai des incidents de ce type, si vous voulez, hein, qui coûtent beaucoup d'argent. Même si on ne parle pas de délinquance, par exemple, la manifestation des agriculteurs que je respecte. Mais est-ce qu'on a pris conscience que la dernière manifestation nous a coûté 50 000 euros à la collectivité? Parce que tous les détritus, ils ont été au détriment. C'est la commune qui les a sortis. Et je n'ai pas de subvention pour ça. Hein. Voilà. Les graffitis là, de la dernière manifestation, c'est 20 000 euros. Voilà. Des dégradations au gymnase, comme ça, fortuite, dans l'année, c'est 30 à 40 000 euros.
D'accord.
Vous voyez, donc, voilà. Alors, bien sûr, on s'est doté d'un... C'est dommage d'en arriver là, mais c'est comme ça. On s'est doté d'un système de vidéoprotection, quoi. Je n'ai pas dit surveillance, hein, protection. C'est-à-dire qu'on accède aux images que lorsqu'il y a un fait établi, quoi.
D'accord. Ouais. Ça aide les gendarmes pour les enquêtes.
Oui, pour les enquêtes. Mais là aussi, c'est un budget cette année de 50 à 100 000 euros que je vais mettre dedans.
Peut-être un peu rapidement, avant de terminer, la situation politique nationale, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Parce que le week-end prochain, on va faire le premier tour des législatives après la dissolution. Et puis, cette période d'incertitude, comment vous la vivez?
Bien sûr qu'elle m'inquiète. Parce que qu'est-ce qui va sortir de ces élections? Nous, quand on bâtit. Des projets, on les bâtit avec une fiscalité que l'on connaît, on les bâtit avec des subventions que l'on connaît. Et donc demain, supposer qu'il y ait un changement radical des choses, peut-être que tout ce qu'on a bâti va être remis en cause. Hein, voilà. Donc ça, c'est le premier point, la première inquiétude d'un maire, d'un président de communauté. Hein, comment la fiscalité de 2025 sera bâtie? Hein, bon, j'espère qu'on ne reviendra pas sur la fiscalité 2024, sur la loi de finances 2024. Donc déjà ça, si vous voulez. Hein. Après, y a l'aspect économique. On vient de parler de beaucoup de projets économiques. Hein. Mais selon ce qui va se passer, peut-être qu'il va y avoir, une hésitation, plus qu'une hésitation, un refroidissement du développement économique. Donc ça peut que nous inquiéter, tout ça. Voilà. Voilà. Donc, je ne dirais pas plus, mais enfin, à travers mes propos, vous comprenez que je suis pour une stabilité de la pensée, et bien sûr, et économique. Ouais.
Monsieur Plano, je ne sais pas, Delphine, si vous avez une question, une dernière.
Je crois qu'on avait fait, on a fait,
on a fait un petit peu le tour avec vous. Dernière question,
ça
passe très vite à votre compagnie. Et dernière question, peut-être quatrième mandat. Est-ce que Bernard Plano envisagerait dans 2 ans?
J'aime bien le conditionnel. Hein,
envisagerait un autre mandat.
Je répondrai par un conditionnel. J'aimerais aboutir. Faire aboutir tous les projets que j'ai. Voilà.
Et sur ce, cela, ils naissent.
Voilà.
Donc on peut imaginer que vous serez au rendez-vous. Donc,
Mais après, il y a les impondérables.
De 2026.
Il y a les impondérables de la vie. Hein.
Oui.
Je ne suis pas devin.
Il me semble que la première goutte de carburant vert est prévue pour 2030 et que vous souhaiteriez être présent.
Pas la boire, mais ouvrir le robinet.
J'espère.
Ouvrir le robinet. Voilà un homme libre, on avait dit, qui aujourd'hui donc maire de l'Almezan, président de la communauté des communes du plateau de l'Almezan. Merci beaucoup, Bernard Plano, d'être venu. On a rarement l'occasion de parler de l'Almezan sur nos antennes. Et bien, écoutez, c'est avec grand plaisir. Et d'ailleurs, si vous souhaitez nous inviter à un plateau, une émission spéciale chez vous, on y viendra avec un grand plaisir. Peut-être que là, on aura aussi l'occasion d'avoir des gens autour de la table qui font aussi le développement économique. Et donc, voilà, l'invitation est lancée, Monsieur Plano. Ça sera avec grand plaisir qu'on viendra faire une émission chez vous.
Mais je la retiens parce que je pense que toujours de la concertation, de mettre les gens en mouvement, beaucoup de positivité, donc je retiens. Mais il faut trouver le modèle, et bien voilà, d'accord.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Merci.
L'heure de pointe, Philippe Subercase.